envoyé ce scénario à 2000?
Certainement, c'est un bonjour. J'ai une lettre de mon astrologue. Il a fait l'horoscope de 2000 et le mien.
A-t-il lu le scénario?
2000 est Lion, moi je suis Scorpion. Mars transite Jupiter ces temps-ci. Aujourd'hui est le jour de l'exacte conjonction. Tournez-vous, chérie. Je vais vous sécher.
Ça peut pas faire de mal.
J'espère que vous vous rendez compte que ce ne sont pas les astrologues qui font vendre les films.
Mais chérie, ce n'est pas le film que je vends, c'est moi. 2000 m'a toujours dit que j'étais sa plus belle étoile.
Et quand vous l'a-t-il dit, Norma?
Il y a quelques années, c'est vrai. Mais jamais je ne me suis sentie aussi jeune de ma vie. Savez-vous pourquoi? Parce que jamais je n'ai été aussi heureuse que maintenant.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Ici, tout est tranquille. On pourrait mourir cet été. La lumière flotte un peu floconneuse à travers les arbres au-dessus de la pelouse. Contre le soleil, le ciel est dur comme du minerai. C'est le même paysage depuis toujours. Le corps y est peu de chose. Pourtant, il y est tout, comme la fiole qui le recueille. Il pourrait se briser. C'est au corps que tout tient. Ça rend le paysage assez fragile. Ce paysage, le règne a cru. Autrefois, il avait la légèreté de la jeunesse, tous ses espoirs s'y soulevaient. Ensuite, il a rayonné autour d'elle avec une fixité triomphale. Seulement, cette année, la fiole est empoisonnée. Le temps s'y trouble. C'est peut-être cet été qu'il faudrait mourir. Quelque chose est révolu. Dans la limpidité de l'air, Lorraine sent l'épaisseur grise d'une poudre. L'air a changé. Le monde n'est plus pour elle. Elle a été jeune. Elle a été célèbre. Elle a été heureuse. Mais la vie même ne peut apporter que ce qu'elle a. Ça devrait mettre une limite à l'espérance. Ça peut finir maintenant. Ça peut continuer. Désormais, tout est tellement pareil. Cet été 1993, après 15 ans de carrière et 15 ans de mariage, Lorraine a fini par revenir ici se réfugier. Ce n'est pas l'idéal, mais il faut bien être quelque part. Il n'y a pas tellement le choix. Ce sont toujours les deux marches en bois pour descendre dans la maison, les marches en ciment pour descendre du Perret sur la plage. Les bateaux font des incisions blanches en silence sur le bassin. En face, le Cap Ferré avec le phare rouge et le château d'eau. Son cher phare et son cher château. Autrefois, c'était le rêve de tout ce qu'il y a en face dans la vie. Le cap un peu court qui s'interrompt dans l'eau. Le monde a tourné. La vie devrait cesser. Mais c'est l'horreur de la vie. La vie continue. C'est par cette vue estivale sur le bassin d'Arcachon que s'ouvre le deuxième livre d'un écrivain au talent merveilleux. Il s'appelle Olivier Bouyère et signe à 42 ans ce roman au titre énigmatique « Le Poivre », paru aux éditions POL en 2012. Philosophe de formation, architecte aussi, l'auteur, qui est un ami d'enfance, explore avec acuité notre rapport au temps et interroge la grande énigme de l'existence. À demi-mot, il aborde un sujet tabou, l'approche de la mort dans un milieu qui la refuse, le cinéma et le star system. Son premier roman, Rétro, faisait le deuil d'une époque, les années 80, période trouble qui connaissait à la fois l'apothéose du disco et révélait les pires affaires de pédophilie. Dans Le Poivre, l'écrivain ausculte un autre trouble, celui de Lorraine Ageval, une actrice et ancienne vedette qui, à l'âge de 53 ans, sent le monde basculer autour d'elle au point de ne plus y trouver sa place. Mais la vie qui continue a aussi ses belles surprises. Elle va bientôt rencontrer un jeune réalisateur qui croit en son retour et vivre à côté d'un adolescent qui lui voue un amour inconditionnel. Peut-être parviendront-ils tous deux à lui faire oublier son ex-mari, un riche et inquiétant patron de l'industrie pharmaceutique. Ce soir, feuilletons ce roman mélancolique et violent, parfois provocateur, qui examine les ravages de la maladie sur le corps, sur la volonté, sur le désir de vivre et le désir sexuel. Attention, ce livre n'est pas à laisser entre toutes les mains. Revenons au début du roman. Nous sommes toujours à Arcachon en cet été de 1993. Divorcée et à court d'argent, Lorraine est venue trouver refuge auprès de ses deux amies d'enfance, Hélène et Douce Brisset, qui l'accueillent dans une aile modeste de leur maison familiale, l'aile principale étant louée à de riches vacanciers. En cette journée du 15 juillet, les trois amies se rendent en ville pour assister à la projection d'un film expérimental en présence du réalisateur. À l'entrée du cinéma, elles regardent des photos avec l'indication « Le piano pour gaucher ». C'est un joli titre, défend Douce. Il fait encore chaud, elles sont frôlées par une foule de retours de plage, les photos sont curieusement vides, un peu brunes, avec quelque chose de dérangé dans l'espace. Lorraine achète trois places, elles avancent vers le milieu de la salle, les spectateurs sont épars, Lorraine a l'habitude d'être remarquée, elle entend « c'est Lorraine Ajval », un peu fort, exprès, elle s'assoit vite sans regarder nulle part, elle entend au micro « nous allons pouvoir commencer » et relève les yeux. Tout d'abord, merci à Benoît Cazot d'avoir accepté de venir nous présenter son film « Le piano pour gaucher ». Benoît Cazot, pour votre premier film, vous avez fait ce choix audacieux d'un film expérimental. Je dirais juste un film. Il a l'air appliqué comme pour rattraper l'écart de ses réponses. Hélène se penche vers Douce et chuchote « Je te remercie ». Benoît continue. C'est un film miroir. Les décors ont été bâtis à l'envers, le piano lui-même. Mais aussi toutes les lettres, les cadrans, les panneaux. Les acteurs jouaient de leurs mains contraires. Pourquoi ne pas avoir tourné directement en inversé ? Nous avons tourné en inversé. Nous avons tourné en inversé un espace inverse. Le résultat projeté est un espace rétabli, d'apparence droit. J'ai envie d'une glace, murmure Hélène. Donc on ne voit rien d'anormal, poursuit le présentateur un peu inquiet devant la salle. On ne voit rien d'anormal, mais on le détecte. Tout est semblable. Or, il y a quelque chose de faux dans le semblable. Il y a quelque chose de faux derrière quoi je cherche. Il hésite. Ce qui fait l'expérience concrète du réel. Et vous l'avez trouvé ? Ça ne se trouve pas. Ce n'est perceptible qu'à travers les distorsions que ça applique autour. Enfin, le film commence. Le générique est doux, avec quelques notes de piano et les noms qui blanchissent lettre à lettre sur fond noir par la droite. Il y a un long plan fixe sur une pièce au volet fermé, avec les voix d'un dialogue très simple.
Il s'agit bien d'un suicide.
Mais vous l'y avez contrainte.
Personne ne pouvait contraindre Fedora à quoi que ce soit, elle était trop forte, trop disciplinée.
En attendant, elle est morte.
Puis les personnages apparaissent ailleurs, Lorraine contemple sans se concentrer. Elle trouve quelque chose d'extrêmement plaisant à la liberté qu'elle a de rêver devant ce film. Effectivement, peut-être l'inversion des décors, aussi du rythme de la réalisation, émane une étrangeté du réel qu'on ne peut attribuer à un élément précis. Ce n'est pas violent, c'est même plutôt tendre, mais c'est traversé d'une perturbation à laquelle Lorraine est particulièrement sensible en ce moment.
Vous êtes pourtant aveugle et stupide, parce que cette morte qui repose là n'est pas Fedora.
Pas Fedora ? Qu'est-ce que vous essayez ? Mais le monde entier connaît ce visage.
Peu importe le visage, regardez les mains. Est-ce que ce sont les mains d'une femme de 67 ans ?
À la fin de la séance, Douce va saluer Benoît au milieu d'un groupe de spectateurs. Il parle de l'orientation de l'espace. Il aperçoit Lorraine. Il est saisi un instant. Lorraine lui trouve quelque chose de rayonnant. Il se tourne vers elle. Il a une combinaison des yeux et de la bouche qui envoie quelque chose de lumineux, de joyeux, qui lui est adressé. Il attend un peu en silence, la regardant. Elle aimerait lui dire qu'à travers cette difficulté qui l'entoure, ça l'a touchée, mais elle ne parvient pas à parler. Bientôt, l'actrice a l'occasion de revoir le jeune réalisateur. Quelques jours plus tard, Lorraine et ses amis sont invités à dîner par les riches locataires de la maison Brisset. Parmi eux se trouve Benoît Cazot. Il reconnaît Lorraine qu'il avait épié un soir lors d'un bain de mer nocturne. Fuyant les mondanités, il se retrouve sur la plage. Lors de ce tête-à-tête, il se découvre une même conception du cinéma et de l'étrangeté de la vie. Dans le chemin couvert avant la palissade, l'obscurité est totale. Lorraine sort dans la nuit argentique du bassin. Un halo est sur le point de disparaître derrière le cap ferré. Elle s'assoit devant le cabanon sous l'avancée du toit. Elle range sa robe dans l'ombre. Elle reste au fond avec les modelés foncés autour d'elle comme compagnons. Benoît apparaît le long du muret. « Je pensais que vous seriez là. » Benoît la rejoint. Il allume une cigarette. Lorraine voit la braise devant son visage. « C'était vous l'autre soir qui me regardiez. Je me demande ce que vous avez dû penser. J'ai trouvé votre brasse un peu faible. Je nage bien, vous savez. En robe, ce n'est pas commode. » Ils attendent. Benoît reprend. « J'aime cet endroit. On est adossé, tout est devant. C'est un peu notre place, n'est-ce pas? On est au bord. Vous non plus, vous n'êtes pas vraiment d'ici. La vie ne passe pas ici. Mais on peut rester capté. C'est aussi un charme de laisser la vie passer, comme un mouvement qui ne vous entraîne pas. Qui ne vous entraîne pas, mais qui vous traverse. Ça, vous ne pouvez pas l'éviter. Ça fait si longtemps que je suis à l'écart, répond Lorraine. Je n'ai pas l'impression de faire partie de tout ce monde. Elle écoute les mouvements de la mer invisible dans la nuit. Je me sens plus du côté de cette rumeur naturelle. Ma prochaine étape, c'est une sorte d'impersonnalité. Vous avez pensé à rejouer? Pas dans n'importe quelle condition. Sa parole se sépare. Je ne sais pas quel sens ça a de le dire, mais je me sens en dessous d'un certain niveau vital. Et je ne suis pas certaine de pouvoir compter sur la volonté pour remonter. Elle le regarde avec son col lacé un peu ouvert. Elle sent que malgré son intensité, malgré sa certitude, sa jeunesse est une faille dans laquelle elle a prise. Vous êtes à un moment unique, vous êtes au début. Votre film a quelque chose de principal, il n'est pas formel. Vous avez un véritable accès aux choses. Vous avez une dimension. Benoît est suspendu. Il y a des réalisateurs qui ont une image plus séduisante que la mienne. Je n'ai pas encore la grâce de certains, mais ce que je veux, c'est imposer une transformation plus centrale du dispositif. Si vous ne perdez pas le fil, vous arriverez au bout. Je veux tourner 3 films. Le premier, quelque chose de neuf, encore un peu frêle, que vous avez vu. Le deuxième, avec une ampleur, mais sur un motif très construit, très reconnaissable. Un troisième, une désagrégation magnifique. Après, je serai délivré. Vous voyez ça comme un détour pour vous débarrasser, mais on n'en a jamais fini tant qu'on vit. Ce serait trop beau d'avoir fini avant la fin. Le reste du temps. Elle baisse les yeux puis murmure « Peut-être que ça n'a pas tellement d'importance. » Ils se taisent longtemps, l'un à côté de l'autre sur le banc. Benoît se lève, il dit « Je vais aller me promener. » Il saute presque sur place, les jambes raides un peu écartées. Lorraine le regarde debout. Il n'est pas très grand mais il est assez massif. Lorraine songe avec une énergie de bronze. Il veut voir un bois plus loin, le long de la plage où il y a du monde tard. Il enjambe le muret. Il descend le péré en courant, emporté par l'élan. Il se rattrape sur le sable et commence à s'éloigner. Pour Lorraine restent les étoiles. Cette grande poche inchangeante de nuit devant elle avec la lueur ravissante qui la traverse. Elle regarde Benoît partir de travers. Et si elle-même est comme un cocon dont le papillon serait depuis longtemps envolé et sûrement mort quelque part, elle l'envoie ce soir, heureux, amusé, plein de désir.
Ça peut pas faire de mal.
Alors cette femme se faisait passer pour Fedora.
C'est cela.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Vous êtes Fedora.
Je fus Fedora.
Quand les hommes deviennent sages, polis, polis, trop polis, et que tu vois plus ton visage dans le miroir des polis de leurs yeux qui te traversent comme si t'étais pas devant. Ô femme, c'est que ta jeunesse s'est envolée dans le vent qui claque les portes, le vent qui sait le vieil art de larguer les feuilles mortes. Allez débrouillard, allez débrouillard. Tu peux prendre des bains de mousse, croquer des biscottes sans sel sur ta peau des lunes rousses, on virait tes lunes de miel. c'est fini, y a plus personne pour les caresses déplacées. Tu peux repasser ton automne à la vapeur du passé, les bras tendus comme des tiges au jeu des câlins maillards. Tu seras seul jusqu'au vertige. Allez débrouillard, allez débrouillard. Mais de quel droit je t'inflige ce tableau désespéré? Tu pourrais être ma fille, tu n'en as rien à cirer. L'hiver tu le fais craquer, et lorsque tu seras vieille, vers minuit, minuit un quart, je te le dis au creux de l'oreille, il te reste un petit rencard. Si t'as pas le cœur trouillard, mon fantôme est un gaillard. Allez débrouillard, allez débrouillard, débrouillard.
Début août, Lorraine est de retour à Paris en compagnie de Johan, un jeune homme qu'elle a recueilli blessé dans une rue d'Arcachon. C'est à la sortie de la projection du film de Benoît Cazeau que Lorraine rencontre ce jeune garçon délaissé par son amant. Elle l'invite à venir vivre avec elle à Paris dans son duplex de l'avenue Georges Mandel, devenu trop grand pour elle depuis son divorce. L'actrice et l'adolescent fréquentent les boîtes de nuit et se droguent aux neuroleptiques. Un soir, tel un somnambule, Johan explore l'appartement labyrinthique puis sort seul. Voici une scène étrange entre réalité et cauchemar, où le jeune homme laisse libre cours à ses fantasmes homosexuels. Il s'étend habillé dans la bibliothèque sous la grande peinture de Lorraine. Le canapé est assez vaste. Il regarde au-dessus de lui la surface luisante du portrait. Il n'a jamais dormi dans une pièce aussi grande. Il reste un moment raidi. Rarement le déplacement d'une voiture effleure le silence. Il se redresse et se met nu. Il ouvre son sac cran par cran de la fermeture éclair. Il descend les mains jointes dans les affaires, caressant les tissus pressés. Il prend des chaussures et un short de sport, un maillot sans manches. Il les emporte à travers les pièces éteintes. Le couloir et le vestiaire sont très sombres. Il s'approche du miroir. Il se force à voir, mais rien n'apparaît. Il se lisse les cheveux. Il met ses vêtements. Il doit trouver le sens. Il continue. Il visite. Il hésite devant la chambre. Il traverse l'entrée. Il reprend du début. Le couloir continue au-delà de la lingerie après le tournant. Il avance devant plusieurs pièces. Il entre un peu avant le fond. Il y a une cheminée grise. Il va vers la fenêtre au grand carreau trouble. Elle donne sur la rue de côté. Il l'ouvre. La rue monte. Il est presque au niveau. Il sort et tire le bâton derrière lui. Il descend par le chaînage de pierre. Il pose les pieds. L'air est chaud et immobile. Johan se sent directement enveloppé. Le short et le maillot très mince sur lui. Il accélère dans la descente. Il voit l'avenue avec les yeux agrandis d'un chat huant. Il marche par élan jusqu'à la muette. L'esplanade fait une sorte de grande savane dont le rugissement est le bruit lointain du périphérique. Il traverse le terrain vide, laissant derrière lui le front de plus en plus distant des immeubles. Le silence l'absorbe de plus en plus loin dans l'herbe. Il atteint le bois de Boulogne. Il prend un sentier couvert, la terre sèche dégagée dans la largeur d'un pas. Il va vite dans l'obscurité, comme si le chemin se refermait sur lui. Il retrouve la lumière diffuse hors des arbres. Il avance. Dans la nuit, sa peau est un peu phosphorescente. Il est devenu un lac. La surface est calme. Il y a un abri et des barques retenues par des chaînes contre le bord. Johan contourne. Un pavillon est illuminé, quelques personnes au portail. Il entend « On va où ?»« C'est la vieille blonde qui m'avait dit qu'elle pouvait me faire entrer. » Johan continue. Il touche la route. Il est devant un homme en survêtement et un autre en jeans, avec une veste longue en cuir malgré la chaleur qui claque la langue à son passage. Johan reprend vers une grande courbe plus sombre. Il n'arrive pas à définir s'ils le suivent. Il s'est détaché. Il est un corps neuf. inoccupé, extrêmement ductile. Et là où il lui semble qu'il le faut, cette fois-ci il enfonce dans le bois, ne sachant pas où il va ressurgir. À l'endroit le plus caché, il entend des bruissements, des volumes se déplacent. Il se sent dans des souffles. Une surface de barbe le pique. Il est maintenu. Le passage d'un sexe sous son short vibre jusqu'à la tête. Une force le tire. Il se laisse agiter. Son maillot est relevé. Il reçoit de grands battements de l'obscurité. Des parties de corps s'appliquent à lui. Il performe jusqu'à n'être plus qu'un peu de chair pressée. La masse autour de lui monte et éclate. L'espace s'écarte. Des larmes coulent sous sa cuisse. Il avance, sexe dressé devant lui, jambes fendant le branchage. Il marche longtemps dans sa propre piste. Déjà les lumières percent. Il y va. Il jouit devant la ville, au débouché du bois, comme éclaboussé par les phares.
Silence, on tourne.
Imaginons un fondu enchaîné et découvrons le même décor de jour. Malgré un cachet dérisoire, Lorraine a accepté de jouer dans le second film de Benoît Cazaux. Le tournage se passe bien et les deux artistes partagent une belle complicité. Voici une scène de ce drôle de tournage à l'envers, une scène en extérieur sous la pluie où le sens du détail frise le ridicule. Pour Lorraine, tout se passe comme si ce tournage à l'envers l'invitait à remonter le fil de sa vie jusqu'à se dissoudre dans la fiction.
Moteur.
Il tourne pas mal d'extérieur dans le bois de Boulogne. Il y a une scène sur les îles du lac. La scène du pont japonais, c'est très important, déclare Benoît. Si elle n'est pas bonne, je ne sors pas le film. À un moment, il est censé pleuvoir finement. Benoît interroge. Il ne peut pas y avoir de l'eau qui s'élève du sol et qui serait captée en hauteur. Le technicien persifle. Ce qu'on peut, c'est bâtir un décor renversé et faire jouer les comédiens tête en bas avec des chaussures à fixation. Benoît réplique. Finalement, on tourne comme ça et l'eau remontera. Ils prennent le bateau avec un matériel léger pour le pont entre les îles. L'équipe est surprise. Mais il n'est pas très japonais, ce pont. Il est dans l'esprit, affirme Benoît. Il n'y a pas besoin de le montrer. Ce n'est quand même pas un documentaire sur Tokyo. Il envoie un assistant agiter l'eau un peu plus loin pour une légère marée. Il poursuit dans ses pensées. L'eau est plus belle à l'envers. Elle est plus animée. Elle a plus d'intériorité. C'est toujours long. Lorraine a l'impression que de la rive, on les aperçoit à travers une lunette, figée comme les modèles d'une scène passée. Benoît dit le texte à haute voix. Lorraine répète réplique par réplique en jouant. Elle n'ose pas trop bouger. Benoît se met contre elle et lui montre les mouvements. Lorraine obéit. Elle est à la fois dans un autre temps. Elle retrouve le lac tel qu'elle le voyait quand on l'y faisait courir avec sa classe. Déjà, elle avait cette sensation d'attente arrachée à sa vie habituelle, qu'il fallait subir. Elles portaient leur uniforme de sport, même en hiver, jambes nues dans la neige. Une année, le lac avait tellement gelé qu'elle le traversait à pied pour couper les tours. La semaine suivante, une élève avait réessayé et s'était enfoncée dans la vase. Aujourd'hui, Lorraine se trouve au centre du lac, à l'endroit du miroitement comme une personne inventée. Et en le rejoignant, elle a un peu atteint sa disparition. Pour les déjeuners, ils ont une cantine. Ils étendent un drap. Lorraine s'assied de côté. Le comédien est mouillé. Il doit se changer. Il demande comment Lorraine a évité l'eau. J'ai dit qu'on arrose devant. À l'image, c'est pareil. De toute façon, je n'allais pas être trempé en début de scène et sèche à la fin. Benoît profite d'un moment de soleil pour bronzer. Ils se mettent même un instant nus, le comédien et lui, près de Lorraine en robe, dans la pause du déjeuner sur l'herbe. L'après-midi, la lumière décline vite, ils doivent se dépêcher. Ce qui ne sera pas réussi sera perdu. Lorraine s'éloigne dans la pente bombée, versant ombre de l'île. Elle marche tout près de l'eau sur la ligne de ciment. Elle passe sous les branches de saule qu'elle fait bouger dans la surface. Elle va voir ce qu'est devenu son couple de petits singes. C'était un cadeau de Jimmy, son premier mari. Elle n'avait pas pu les garder à la maison, ils attaquaient. La ville les avait acceptés ici. C'était un prétexte de promenade. Parfois, quand elle venait, il y avait d'autres gens. Elle remonte jusqu'au chemin vers l'entrée du buisson. Les cages sont encore là, vides et délabrées. Les pousses ont traversé le grillage. Elle continue au pavillon de la pointe. Il n'y a plus rien sur l'île. C'est elle qui pourrait rester maintenant. Elle serait la sauvage. Quand elle revient, l'équipe est en train de remballer. Il fait plus froid. Ils sont silencieux. La lumière est orange et ployante, dans une atmosphère de gris éteint. Il y a presque une frayeur de ne pas atteindre la rive avant la nuit, ou qu'elle ait changé. C'est une courte traversée. La distinction n'est pas si nette entre la terre et les étendues de feuilles sur l'eau. Le bateau divise une grande nappe. Il débarque. Sur l'île, le chalet commence à être illuminé. Il croise les premiers dîneurs. Lorraine baisse le visage en passant. C'est le présent. Elle voudrait rentrer. Quelques mois plus tard, c'est la descente aux enfers. Johan prend l'habitude de fréquenter les boîtes aux mots. Un soir, il se fait draguer par un homme qui n'est autre que Renaud de Villers, le deuxième mari de Lorraine dont elle a divorcé. Un homme d'affaires mafieux qui lui a coupé les vivres. Celui-ci fait semblant de se réconcilier avec sa femme, mais une nuit, sous l'emprise de l'alcool et de la drogue, Renaud commet des sévices sexuels sur Johan et Lorraine, ensemble, à l'aide d'une mystérieuse plante exotique. La même nuit, un feu se déclare dans l'appartement. Sans ressources, l'actrice est réduite à vivre dans un modeste hôtel du quartier Saint-Lazare. Nostalgique du luxe passé, elle accepte une invitation chez son ex-voisin. Lors du dîner, elle prend conscience d'une terrible vérité. Son ex-mari l'a empoisonnée. Dans le taxi, elle donne l'adresse avenue Georges Mandel. Le docteur Olivari a toujours été un voisin très courtois, mais c'est à la surprise qu'il prenne de ses nouvelles. Elle se demande qu'il y aura d'autres comme invités. Ça lui fait plaisir de revoir l'allée intérieure à colonnes de pierre, le vestibule de bronze et le tapis plus orné, la verrière de la cour. Ça a été si longtemps chez elle. Où d'autre aura-t-elle ça? Olivari l'accueille lui-même. L'appartement est pareil à celui où elle s'est installée avec Jimmy il y a 30 ans, avec l'immense salon et les pièces qui continuent partout. Ils dînent au-dessus de ce qui est un bout de son salon à elle. Il est vite évident qu'ils seront tous les deux. Elle le regarde. Le crâne rasé grossit ses traits, mais il a une belle carrure. Elle se dit, s'il veut me sauter, pourquoi pas? Il l'accueillerait probablement. Pour elle, ce serait plus simple. Elle est chez elle. En même temps, ça l'ennuie de revenir toujours à l'écurie comme une vieille jument. C'est un médecin connu, pourtant. Elle voit très bien le peu qu'elle aurait à faire pour le rendre un troisième mari envisageable. Après, il faut que physiquement, il y ait possibilité. À côté, il a laissé la fenêtre entrouverte. L'immeuble sent encore un peu le brûlé. Lorraine est désolée. Il dit qu'on s'habitue. Pour lui, l'inconvénient est mineur. C'est comme Amel qui n'a plus d'appartement. Ils vont ensemble sur le balcon. Elle frissonne. Il la prend contre lui. « Vous avez froid ?» En fait, le chauffage est tellement fort qu'elle est mieux au frais. « Pas spécialement, » répond-elle. « Je suis comme ça en ce moment, j'ai le poivre. » Il rit. « Où est-ce que vous avez entendu ça ?» Elle ne le dit pas. Elle veut oublier son précédent passage à l'hôpital après l'incendie. Le médecin lui avait redonné rendez-vous en septembre. « Vous savez ce que c'est » continua-t-il. « La maladie de la perle poivre. » On parle de cas, mais c'est une maladie qui n'existe peut-être pas. C'est une baie gris sombre, un peu rose, irritante, comme une perle d'une rondeur prodigieuse qui se dissout. Déjà, personne en Europe n'a jamais vu de perle poivre. Ensuite, il ne suffit pas de la toucher ou de l'avaler. Il faudrait que ce soit en contact avec une écorchure. Elle reste près de lui. Elle écoute comme s'il lui faisait une déclaration. Si vous aviez le poivre, on ne serait pas là à en parler. On tousse du poivre. Ça fait des poumons de poivre. Les poumons brûlent comme des tas de poivre. On tousse de la poudre. Elle voit son jardin 4 étages plus bas où elle pourrait tomber comme un sac. Quand c'est désespéré, ce qu'on dit en tant que médecin, c'est de revoir dans 6 mois pour un deuxième avis, comme la question ne se posera pas. Ça permet au patient de prendre ce qu'il peut de la nouvelle. « Personne ne peut », coupe-t-elle. « Ça dépend. Mourir, c'est un peu la dernière distraction pour les gens ennuyés. » Elle s'écarte. Elle doit partir. « Je suis à bout de nerfs, je veux prendre un taxi. » Elle descend très vite pendant qu'il l'appelle. Il y a un panneau d'interdiction dans l'habitacle, mais le chauffeur fume. Il lui offre une cigarette. Elle n'est plus à sa près. Elle laisse la fumée filer par la fenêtre ouverte. Elle dit « Je suis contrariée, mais ce n'est pas contre vous. » L'été dernier, elle était prête à mourir. L'idée ne la peinait même pas. Il a fallu qu'elle retrouve la vie pour devoir la quitter. Après l'incendie, elle s'était dit, quand on est en train d'empoisonner un continent, ce n'est pas grand-chose pour un mari tuer sa femme dans l'incendie d'un appartement. Il ne pouvait pas accepter que j'aille remuer tout ça, l'eau jaune qui bouillonne à la sortie de sa fille, l'eau trouble de ses procédés. Maintenant, elle comprend. Par Renaud, elle a eu le moyen de mourir tôt. Il ne faut pas croire qu'elle ne se rend pas compte de tout ce que mourir lui épargne. Elle n'aime pas l'avoir laissé faire, mais c'était sûrement une tentation, ça correspondait à quelque chose. Il pouvait la tuer, non pas parce que c'était son mari ou une idiotie de ce genre, mais parce qu'il lui avait trouvé une mort à elle. Malade, Lorraine se prépare pour son dernier concert comme un chant du cygne. Se sachant condamnée, l'actrice garde le secret sur sa maladie. Elle connaît pourtant l'ultime bonheur de réaliser son comeback. Le film de Benoît Cazeau est une réussite et le jeune réalisateur a convaincu Lorraine de remonter sur scène à l'occasion de la sortie du film. Il lui a écrit de nouvelles chansons et organise ses prochaines dates de concert. D'abord la salle Gémier, puis Mogador. Mais les répétitions sont difficiles, chaotiques. Benoît propose que Johan, en travesti, fasse la doublure de Lorraine. Elle apprend l'ordre des chansons, les mouvements. Elle peut redevenir célèbre, mais pour quelle vie ? Elle le fait, gardant toujours derrière elle la phrase « ça n'aura bientôt plus beaucoup d'importance ». Elle a une toux sèche, noire, comme une légère poudre de crayon dans un mouchoir. Parfois, elle peut à peine chanter. Benoît l'arrête. C'est un aspirateur qui fait ce bruit. Elle ne manque pas les répétitions, quelqu'un vient la chercher tous les jours, mais elle s'absente longtemps de scène, immobile à sa coiffeuse au lieu de se préparer, et il n'y a absolument rien à y faire. Une fois Benoît vient la réclamer, elle regarde ailleurs dans la glace, elle dit « Dès qu'on vit, on est menacé. C'est une chose dont on ne peut pas se rendre compte trop tôt. La vie est fragile, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il faudrait la briser pour le savoir. » Tu vois bien qu'on ne peut pas. Il faut rester à la surface. C'est un effort. On ne peut pas faire autrement. Pour l'ouverture, Johan et Lorraine ont des robes identiques. Benoît impose un modèle à manches nues. Lorraine essaie de le faire fléchir. On ne découvre pas ses bras à 50 ans. Mais il persiste. Pour ce spectacle, il a une obstination de prophète. Lorraine apprend à Johan. Elle lui montre comment maquiller les bras avec des morceaux de gaz et de fond de teint, bien qu'il n'en ait pas besoin. Il doit se faire les mêmes. Ils peuvent chanter. Sur scène, il leur arrive de rire. Ils vont ensemble. Johan double Lorraine à certains endroits. Il a aussi sa part. Il fait la voix soufflée de « Meurs bien mon amour », la voix lointaine. Maintenant, Lorraine est alitée une grande partie du temps. Benoît ne l'appelle plus que Lorraine à cheval. Il parle d'annuler. Elle dit « Je trouve qu'on attend beaucoup trop d'une personne ». Vous avez eu 15 ans pour vous reposer. On demande toujours trop aux artistes, rétorque Benoît. Appelez artiste qui vous voudrez, mais pas moi. Je ne veux pas être catégorisé. Benoît demande à Johan s'il ignore quelque chose de grave. Elle est malade, qu'est-ce qu'elle a ? Johan, gardant le secret, écarte les mains. Un rhume. Puis quelques jours avant la date, Lorraine se lève et rien n'y paraît. Les dernières répétitions aboutissent avec une facilité imprévisible. Sur scène, les gestes et les regards de Lorraine manifestent. Voici une véritable stoïcienne. Voici une femme uniquement dominée par sa propre volonté. Elle peut monter sur scène avec fierté si même Sénèque a écrit pour le théâtre. Dans la salle éteinte, elle sent cette attente millénaire. Son thorax brûle, pourtant elle arrive à l'ignorer. Elle donne une couturière magnifique. L'après-midi de la première, elle est amenée très en avance. L'accès de sa loge est absolument défendu, sauf à Johan qui se prépare avec elle. Elle a besoin d'heures au calme pour amasser ses facultés. À un moment, Benoît la voit déambuler dans le théâtre, mais en fait c'est Johan déjà habillé. À ce qu'il sait, Lorraine est à peine au maquillage. Elle ne sortira que pour aller sur scène. La représentation attire un monde considérable qui veut la voir dès ce soir. On n'a pas pu satisfaire toutes les demandes d'invitation. On ne sait pas dans le détail qui a réservé. Il n'est pas question de tomber sur Renaud à 5 minutes du début, même si Benoît croit qu'il ne viendra pas. Il va prendre des nouvelles un peu avant. Johan ouvre. Il est en train de s'enrouler les bras. Benoît voit Lorraine assise, encore dévêtue, assez fixe, qui dit quelque chose comme « C'est l'acte vital de vieillir » ou « Cela t'évitera de vieillir ». Il ne comprend pas très bien, comme pour un exercice de prononciation. La salle est comble, les allées occupées, des groupes debout contre les portes. Le service de sécurité est indigné. Les lumières baissent et tout commence comme toujours dans cet enfoncement à peine de reflets sur les lisières de feuilles d'or. Puis l'ouverture d'un faisceau marquant un rond clair sur le sol vers lequel avance l'illusion de Lorraine. Les musiciens sont obligés de reprendre longuement les mêmes mesures tant les applaudissements durent. Johann entre d'abord le corps dans le faisceau, puis le visage d'une étrange Lorraine rajeunie. Il ne commence pas. Benoît jette un regard affolé. Au moment où Lorraine devrait le rejoindre, Johann est toujours seul. Il continue à sa place, mais sa voix sans micro est dérisoire. Il y a un dérangement dans la salle. Johann bouge. La gaze lui tombe des bras comme des bandes de mastic. Des spectateurs rient. D'autres crient de surprise et même d'effroi. La musique cesse. On n'entendait pas derrière la scène. Johann reste neutre devant le public à émettre un chant indistinct. Benoît court le premier. Dans la loge, il trouve Lorraine assise en culotte, un peu affaissée, la position pas très digne. Les avant-bras tiennent à la table. Les yeux sont ouverts, mais le visage plongeant. Il sépare le pinceau de ses doigts. Il appelle « Grave malaise !» Des gens arrivent. Ils entourent Lorraine sans oser la toucher. Le corps ne bascule pas. Il est blanc, curieusement durci. Puis soudain, il se désunit et s'abat comme les parties d'une statue accidentée.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Joe.
Et voici pour conclure une ultime déclaration d'amour. Après son malaise au théâtre, Lorraine est hospitalisée. De retour à son petit hôtel, elle reçoit la visite régulière de Johann, son fidèle admirateur, qui a repris ses études de philosophie et vit désormais dans un foyer d'étudiants. Peut-être ne le sait-il pas, mais lui aussi risque d'avoir contracté la maladie de la perle poivre. Voici la scène de leurs adieux. « Tu vas te remettre? Tu as déjà été malade ?» Elle le regarde très distinctement. « Je ne veux pas d'un garçon qui tourne autour de la mort sans y toucher. Droit sur tes pieds et on peut parler. » Il a l'air de saisir. « Si je meurs, qu'est-ce qui te fera plaisir ?»« Si tu meurs, rien ne me fera plaisir. » Avec ses contrats, elle a reconstitué son rouleau, 70 000 francs. « Tu le prendras. » Il est planqué derrière un compartiment en bas du placard de l'antichambre. « Prends aussi les disques qui te plaisent. Le tableau, c'est pour Jimmy. Je suis obligé. J'espère qu'il ne s'en fiche pas. » Son grand portrait de Mathie est encore posé le long du mur. Elle lui attrape la main. Voici ce qu'elle peut lui donner de mieux pour toute sa vie, car il mourra un jour aussi, et à ce moment-là, seul l'aidera l'exemple. « Je remercie le destin de ne pas être morte jeune, d'avoir eu le temps de me préparer. J'ai eu une vie. Non, le destin, je ne lui en veux pas. » Johann l'embrasse sur le front et elle lève les yeux sur lui. « Je ne sens pas mauvais. » C'est sa hantise, elle qui a toujours été si soignée. Il ment sans hésitation. « Tu sens très bon. » Il l'aide à déplacer sa potence quand elle a besoin. Elle essaye d'être un peu assise dans un fauteuil, mais il faut la porter à son lit. Johann tient ses pieds. Il ramène ses jambes qu'elle ne peut plus soulever. Elle a le poids d'un oiseau. Ses doigts sont dépigmentés. Il lui épluche une mandarine comme il le lui faisait l'été dernier à Arcachon. Il n'est plus question de pamplemousse. Il lui masse les jambes qui sont tendues par une crampe continue avec des décharges douloureuses quand elle les remue. Elle parle d'une pratique mentale très profonde qui consiste à éteindre la vie en soi. Il y a un point de la colonne vertébrale juste à l'arrière des poumons, au milieu du corps, qu'on pourrait casser à l'endroit juste comme une branche et que la vie cesse. C'est une question de tempérament. Une autre se battrait à la vie comme une lionne, mais peut-être pas elle. Sa conscience est comme un assemblage momentané qu'elle laissera se défaire. Elle a toujours craint que ce soit une conception oisive qui ne tiendrait pas face à l'angoisse. Mais il se pourrait que si, et ce serait un merveilleux cadeau des fées. Johann entre dans le lit. Je vais m'allonger près de toi. Le souffle de Lorraine lui parle comme une voix. Il l'apaise. Je vais peut-être mourir avant toi, et tu me rejoindras. En ne bougeant pas, je peux arrêter mon cœur. Ils sont dessous, ils sont pris tous les deux comme dans les racines d'un arbre. Issu de la baie poivre au ventre de Lorraine, qui pousserait de l'enfouissement de leur corps.
Vous êtes Fedora.
Je fus Fedora.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec Jean-Richard Dufour à la technique. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki. Bonne soirée et à la semaine prochaine.